Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui à la Baume, à la foire Tous en Bottes, j'ai le plaisir d'être avec François Aprosy-Touilleux qui s'est lancé dans la spiruline à Orpierre. Monsieur Aprosy-Touilleux, bonjour.
Bonjour.
La spiruline, beaucoup de gens en parlent, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la spiruline d'ailleurs ?
Beaucoup disent c'est une algue bleue, c'est une micro-algue et tout. On va dire pour résumer que c'est l'ancêtre des algues. C'est-à-dire que c'est la troisième forme de vie sur notre planète. La première forme de vie photosynthétique, c'est-à-dire le premier être vivant à faire la photosynthèse. La spiruline est un petit être vivant spiralé qui mesure entre 35 et 350 microns. Et en fait, elle le pousse dans de l'eau, en milieu aqueux. Alors après, vous en avez certaines qui vont pousser dans de l'eau douce, dans de l'eau saumâtre ou dans de l'eau salée, comme l'eau de mer. Toutes ne sont pas comestibles, puisque les cyanobactéries, on a 1500 espèces, et sur les 1500 espèces, on a 21 seulement comestibles, qui sont toutes des Arthrospira platensis. On a même des cyanobactéries qui sont sous forme de lichen et de mousse. Donc voilà, c'est un être vivant qui est très très ancien. Ce qui nous intéresse dans la spiruline, c'est que, elle n'est pas toxique bien évidemment, elle est totalement comestible, puisqu'elle ne développe pas de microcystine, mais surtout qu'elle est apparue sur la planète il y a très très longtemps. C'est-à-dire qu'elle est à l'origine de tout le règne, d'une grosse partie du règne du vivant, et notamment du règne végétal, puisqu'elle est le premier être photosynthétique. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'elle a au sein de ses cellules tous les éléments de vie qui intéressent notre organisme, à savoir tous les acides aminés essentiels, tous les minéraux, toutes les vitamines. Vous avez tous les acides gras essentiels, ne sont pas compris, ce sont tous des oméga 6, hein, ne sont pas compris dedans les oméga 3, puisque l'on sait par ailleurs, une cyanobactérie qui va développer des oméga 3, développe par ailleurs, c'est un marqueur hein, de référence, hein, ça ne veut pas dire pour ça que les oméga 3 sont toxiques, loin s'en faut, c'est-à-dire qu'une cyanobactérie qui va développer des oméga 3, on sait par ailleurs qu'elle développe des microcystines. Donc ça veut dire que ces cyanobactéries-là ne sont pas comestibles. La spiruline n'en développe pas. Donc elle a au sein de ses cellules, elle a des oméga 6 bien évidemment, elle n'a pas de vitamine C, certaines cyanobactéries en développent, mais on sait aussi que par ailleurs elles font des microcystines, donc elles ne sont pas comestibles, hein. je le répète, la seule cyanobactérie comestible est une Arthrospira platensis, c'est-à-dire de la spiruline. Son appellation commerciale parfois va être algue bleu-vert, bien que là on va retrouver d'autres cyanobactéries et autres, mais pour résumer, pour faire court, la spiruline est un être antédiluvien, c'est-à-dire qu'elle est à l'origine, la troisième forme de vie sur notre planète, et on la consomme parce qu'elle est là, au sein de sa cellule, concentrée des éléments essentiels pour notre métabolisme.
Comment vit-elle ? De quoi se nourrit-elle ?
Alors la spiruline est un être autotrophe, c'est-à-dire qu'elle va, elle ne va pas avoir besoin du règne du vivant pour se nourrir, elle ne va se nourrir que du règne minéral. Les cailloux qui sont autour de nous, qui composent la roche mère de notre planète, tout ce que l'on va trouver dans la nature qui est sous forme minérale. Nous autres sommes des mammifères qui sommes des êtres hétérotrophes, c'est-à-dire que nous avons besoin du règne du vivant pour pouvoir nous nourrir, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont consommé des minéraux ou autre chose, et nous allons puiser dans ces êtres vivants, des végétaux, des œufs, enfin tous les êtres vivants que vous pouvez rencontrer, nous allons puiser les éléments nutritifs à l'intérieur. Si je donne une autre image, si je me nourris de poudre de cailloux, je ne vais rien pouvoir en faire, et pêcheur, je vais mourir. En fait, la spiruline, elle, va se nourrir de ces poudres de cailloux. Et ces poudres de cailloux, dans la nature ou dans l'industrie, vont se retrouver de différentes manières. Personnellement, nous ne sommes pas dans le domaine de l'industrie, nous sommes dans le domaine artisan, paysan, agriculteur, donc nous sommes proches de la terre, mais pour autant, nous n'utilisons pas de la décomposition organique, puisque, je le rappelle, la spiruline est un être autotrophe. Donc nous allons utiliser des minéraux naturels pour pouvoir nourrir notre spiruline. Et je le rappelle, la spiruline évolue en milieu aqueux, c'est-à-dire dans de l'eau. Donc nous allons rajouter des sels de culture dans l'eau pour que la spiruline puisse s'en nourrir. Et ensuite, nous allons la récolter.
Oui, parce que en fait, vous vous déclarez agriculteur.
Oui, mais oui. Et de fait, je suis agriculteur puisque j'interviens sur le cycle de la vie. Et le cycle de la vie sur lequel j'interviens est microscopique, hein, puisque je le rappelle, la spiruline mesure entre 30, 35 jusqu'à 350 microns, hein, pour les plus longues. Je suis donc agriculteur, mais pour autant, je ne travaille pas sur la terre. Je travaille dans des bassins. Donc nous avons des bassins dans lesquels vous avez de l'eau qui est maintenue en agitation de manière à ce que la spiruline puisse non pas être oxygénisée, mais pour qu'elle puisse être maintenue en suspension. C'est-à-dire que si je la laisse telle qu'elle dans le bassin, son développement, puisqu'elle se reproduit par scissiparité, c'est-à-dire qu'elle se coupe en deux pour pouvoir se reproduire, il n'y a pas un monsieur et madame spiruline, hein, donc c'est un développement, on va dire, bactérien, elle va se développer sous forme de bloom, où à un moment donné, on va avoir une prolifération extrême dans des bonnes conditions de culture, de chaleur, de photopériode, on va avoir une explosion qui va correspondre à un bloom. Pour éviter que ce bloom ne se coagule, ne floccule, en fait, on va maintenir le milieu en suspension et pour ça, on va avoir une forme d'agitation. Alors, on peut utiliser une roue à aubes, on peut utiliser tout un tas d'éléments, des pompes, ce qu'on veut. Nous avons, nous, sur notre site de production, des roues à aubes qui nous permettent donc, sur un bassin qui va être sous forme d'hippodrome, par exemple, aller dans un sens et maintenir ces micro-organismes en suspension. Ces micro-organismes sur notre site de production pour pouvoir les récolter. Nous allons les récolter par gravité et nous allons donc les faire, non pas atterrir, mais nous allons les récupérer sur un tamis filtrant, on va dire une grosse passoire pour récupérer des spaghettis, en fait, mais microscopique. Et ce gros tamis filtrant, nous allons éliminer l'eau qui se trouve dessus pour ne garder que la biomasse. C'est une pâte gélatineuse dans laquelle nous avons des milliards et des milliards et des milliards de petites spirales de spiruline. Cette biomasse, nous pouvons la consommer fraîche telle qu'elle, mais très rapidement parce qu'elle va s'abîmer très rapidement, puisque c'est un produit frais. Et cette biomasse, nous allons ensuite l'extruder, c'est-à-dire que nous allons faire des petits spaghettis que nous allons étendre sur des clés et ces clés nous allons ensuite les mettre dans le séchoir pour pouvoir donc les déshydrater. Une fois qu'elles sont déshydratées, nous allons obtenir donc chez nous à la spiruline d'Orpierre des micro-aiguillettes. On peut trouver par ailleurs des paillettes, chacun après l'appelle un peu comme il veut. Chez nous, ce sont des micro-aiguillettes, c'est-à-dire que ce sont des gros spaghettis, je veux dire, qui sont en petits bouts. Voilà. Et ces micro-aiguillettes, ensuite, on va les consommer à tempéra, c'est-à-dire qu'on va les mettre soit sur ses salades, des potages, sur des œufs, on va l'utiliser en fait comme un condiment, hein, ou pour les grands feignants comme moi, c'est-à-dire qui aiment bien mettre le minimum d'énergie pour un maximum de résultats, hein, c'est un petit peu le système de culture que nous avons, on va mettre ça dans la main, dans la bouche, on boit un verre d'eau et puis c'est réglé.
Il semblerait que la spiruline ait besoin de chaleur quand même pour se développer. Est-ce que dans votre pays, à Orpierre, si je ne m'abuse, c'est dans les Hautes-Alpes?
Tout à fait.
Est-ce que c'est l'endroit idéal? Est-ce que ce ne serait pas plutôt en Tanzanie ou le long de l'équateur qu'on aurait plus de facilité à cultiver de la spiruline?
Bonne question. En fait, la spiruline, à l'origine sur la planète, elle est un petit peu partout puisque nous avons une planète qui n'a pas les mêmes configurations, ni la même chaleur, la même lumière et autres, puisqu'on a un air qui est saturé de dioxyde de carbone, de soufre, on a une luminosité qui est bien moindre, mais par contre on a une saturation au niveau des radiations donc solaires. Et donc à cette époque-là, donc il y a 3,5 milliards d'années, la spiruline évolue à 50 mètres de profondeur sous les océans. Et je le rappelle, c'est le premier être photosynthétique. Donc elle est allée chercher la lumière du soleil pour pouvoir vivre, subsister et récupérer les éléments qui étaient dissous dans l'eau, et notamment les gaz qui étaient en surface et tous les minéraux qui étaient dissous dans l'eau. Aujourd'hui, on va retrouver la spiruline essentiellement de manière naturelle sur toute la ceinture équatoriale et subéquatoriale de notre planète. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les conditions de chaleur et de photopériode sont réunies. Photopériode, j'entends 12 heures d'ensoleillement par jour avec des lumens qui sont assez impressionnants. Quand on va au Tchad, on n'est pas en France. Effectivement, on a 20% d'hygrométrie, on a 50 degrés à l'ombre, donc on va avoir une eau à 38 degrés avec une photopériode qui va durer 12 heures. Dans les Hautes-Alpes, en hiver, effectivement, ce n'est pas ce qui se passe. Et dans ces cas-là, les cultures sont au repos. Donc nous avons une période de culture qui va s'étaler grosso modo entre le mois de mars et le mois de novembre, certaines années entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Tout dépend effectivement de cette chaleur et de cette photopériode. Idéalement, donc, dans les Hautes-Alpes, nous sommes mal situés. Mais nous avons une expérience Nous avons, puisque nous sommes sur Orpierre depuis 1997, bon moi j'ai repris le site en 2006-2008, hein, mais le site existe historiquement depuis 1997, au même titre que Philippe Calamand par exemple, qui lui est dans l'Hérault et existe depuis 1997. Ce sont deux systèmes de culture différents, puisque Philippe lui va plutôt faire le développement d'un système de culture qui va être reproductible dans les pays en voie de développement par exemple, donc un mode de production qui est relativement simple, aisé et qui va pouvoir être adapté quelles que soient les conditions dans lesquelles on va se trouver. Et nous avons, nous, un système qui est adapté à la France avec la législation. Philippe est bien sûr, je veux dire, c'est dans les normes, bien évidemment. Mais disons que le système que nous avons, où nous avons investi plus de 200 000 euros, effectivement, quand on arrive dans un pays en voie de développement, on n'a pas forcément 200 000 euros dans sa poche pour pouvoir investir dans des modes de culture. Donc on va utiliser quelques planches, un mode d'agitation et tout. Mais je le rappelle, ça n'est pas fait pour la même chose, même si on va nourrir les gens de la même manière.
Alors vous m'avez dit que votre cycle de production, quand on pense aux conditions climatiques, était de mars à octobre. Dans cette période de temps, combien de cycles de production de spiruline arrivez-vous à faire ? Y en a-t-il qu'un ou y en a-t-il plusieurs ? Sachant que la spiruline a besoin de combien de temps pour éclore ou être à maturité ?
Alors, la spiruline n'éclot pas, mais se reproduit. Je le rappelle, par scissiparité. Elle se coupe en deux et au départ, on a un filament en forme de spirale. Nous avons une cellule, je disais, c'est qui, on va dire, pour résumer, pour faire court, se désagrège. Et nous avons ensuite deux filaments et ensuite 4, 8, 16, 32, de manière exponentielle. Donc, elle va avoir un mode de reproduction, on va dire, tel que celui des bactéries. Donc, effectivement, on va avoir une explosion de développement dans ces conditions optimum. Ces conditions optimum sont réunies, je le rappelle, sur la ceinture équatoriale. En fait, pour pouvoir récolter de la spiruline, on va compter un premier cycle qui est d'une quarantaine de jours ou 50 jours, en fonction, donc, effectivement, des conditions de maturation. Photopériode, chaleur, nourrissement et tout ça. Ensuite, une fois qu'elle est dans le bassin, on peut avoir des récoltes tous les 2 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines, tous les 10 jours ou tous les 20 jours. Ça va dépendre des conditions dans lesquelles elle évolue et donc ça va dépendre directement du climat extérieur.
De la concentration du bloom.
C'est ça, exactement. Donc de la concentration de population qu'on va avoir dans le milieu. Plus le milieu est concentré, plus il va falloir récolter pour laisser la place à toutes les autres populations qui se trouvent dans le milieu et qui vont pouvoir prendre la place.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le process ? Vous partez d'une éprouvette, vous versez dans le bassin en début de cycle un échantillon de spiruline et hop, ça croît. Comment ça fonctionne ?
Dans un système magique, on pourrait dire oui, on fait de la sorte. Mais étant, je pense, un minimum les pieds sur terre, traditionnellement, on va dire, et pour parler schématiquement, on va partir donc d'une petite quantité de l'ordre de quelques millilitres qui va en fait se reproduire au fur et à mesure qu'elle va avoir de la place dans le milieu de culture. Ces quelques millilitres, lorsqu'ils sont saturés par la population, vont être inoculés dans un milieu de culture plus important qui va être lui-même saturé et ainsi de suite jusqu'à obtenir le volume d'un bassin qui représente plusieurs milliers de mètres cubes. Donc quand je dis plusieurs milliers de mètres cubes, ça va faire 300 mètres carrés par exemple, je veux dire c'est bon pour nos bassins. Donc une fois qu'on a mis la spiruline, qu'on est parti de ces quelques millilitres et qu'on est arrivé au bassin, on va avoir à la fin l'explosion du développement qui va faire qu'à chaque fois on va récolter.
Donc ça veut dire qu'en fait, de mars à octobre, vous récoltez au fur et à mesure, tant qu'il y a de la concentration suffisante.
Exactement, exactement. Et cette concentration, je le rappelle, diffère en fonction des régions où l'on se trouve. Si on est du côté de Hyères, effectivement, on est dans des conditions optimum pour pouvoir développer de la spiruline. Mais on peut être sujet, par exemple, à des contaminations liées justement à la proximité de la mer, puisque bon, ben, toute la culture va dépendre aussi de la maîtrise du milieu de culture et donc de la non-prolifération d'autres éléments de vie dans le milieu de culture.
Ce qui veut dire qu'en fait, une culture de spiruline peut être potentiellement fragile. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de figure où votre bassin était contaminé par quelque chose de parasite ou
pour notre part, non. Pour notre part, non. Mais disons qu'en fait, c'est comme n'importe quelle culture. Lorsque vous faites du blé, si vous regardez bien, il n'y a pas que du blé qui pousse. Et le but du jeu dans les micro-organismes, en fait, c'est de maintenir un milieu de vie qui soit vivant tout en permettant à ce que seuls les éléments qui vivent dans le milieu de culture soient des éléments qui ne posent pas de problème en fait. Lorsque vous prenez un bassin de spiruline, vous pouvez rencontrer quelques protozoaires à l'intérieur, mais qui ne vont pas être ni nuisibles pour l'être humain ou quoi que ce soit. Ça fait partie du milieu de vie normal. Quand vous prenez la terre autour de vous, il y a tout un tas de micro-organismes qui sont à l'intérieur. Alors effectivement, après, cela dépend comment on va gérer son bassin. Mais potentiellement, le milieu de vie de la spiruline n'admet pas de germes pathogènes de par son alcalinité et ensuite de par sa concentration. Plus on a de populations dans le bassin, moins cela laisse de place à d'autres germes de pouvoir s'installer, tout simplement.
Et en fin de cycle, qu'est-ce que vous faites? Vous récurez les bassins? Parce que j'ai cru entendre dire quand même que la production de spiruline pouvait, selon la façon où elle était menée, être plutôt polluante avec des rejets de saumâtres, peut-être.
Alors, en fait, tout dépend de la manière de conduire les bassins de culture. Si je prends un extrême qui peut se pratiquer dans certains pays qui ne sont pas la France, on va avoir des gens qui vont cultiver de la spiruline de manière industrielle. Hein. Le terme n'est pas péjoratif, il est simplement pour mesurer une grandeur, une échelle.
Grande quantité.
Voilà. Donc, quand vous avez des bassins qui font plus de 5000 m², forcément, je veux dire, moi j'ai des bassins, ils font 300 m². On n'est pas du tout dans la même cour. Mais on peut remplir ces bassins et les racler ensuite jusqu'au bout pour jeter ensuite tout dans la nature et ensuite refaire de nouveau un milieu de culture. Mais bon, si ces gens-là se trouvent dans le désert, effectivement, ça va avoir un impact ou quoi. Disons que sur notre site de production, nous n'impactons pas du tout de la même manière puisque nous avons donc un milieu de culture que nous conservons généralement pendant plusieurs années. Et ensuite, ce milieu de culture est totalement recyclé. Nous n'avons pratiquement pas de rejet pour la bonne et simple raison, c'est que nous réutilisons tout ce qui est issu du bassin.
Même l'eau, vous ne
Même
changez
l'eau,
pas l'eau.
Tout à fait. Disons que l'eau, en fait, nous ne pratiquons pas de purge et nous réutilisons tout ce qui se passe dans le bassin. Donc que ça soit au niveau de la récolte où nous récoltons la spiruline et que ça soit en fin de vie du milieu de culture qui lui est recyclé pour d'autres applications.
Alors il y a spiruline et spiruline. Je ne vous demande pas de me révéler vos secrets de fabrication, mais vous m'avez dit que vous pouvez y mettre pour la nourrir de la poudre de cailloux. Est-ce que selon ce qu'on met dedans, on aboutit à une spiruline qui a plus ou moins tel goût? Est-ce que les spirulines sont différentes?
Alors, on va rentrer éventuellement dans l'éternel combat. Faut-il que je travaille bio? Faut-il que je travaille pas bio ou quoi? Qu'est-ce que le bio ou quoi? Je ne vais pas me lancer dans ce genre d'explication. Je vais simplement dire comment moi je fonctionne. C'est tout simple. La spiruline est un être autotrophe. Elle ne se nourrit que du règne minéral. Donc la décomposition organique va devoir passer par tout un cycle pour qu'elle puisse être nourrie avec cette décomposition organique. Ça ne veut pas dire pour ça que ça va être bon pour la spiruline. Mais je suis un mammifère, moi par contre je vais manger bio, pour ma part, hein, je veux dire ça me regarde. C'est-à-dire que je vais me nourrir d'éléments naturels qui ont été cultivés dans un milieu riche et à fort développement organique. La spiruline va se nourrir, vous disiez, de poudre de cailloux. C'est un résumé pour dire qu'elle va se nourrir du règne minéral. Dans le règne minéral, on peut très bien avoir des minéraux qui sont issus de la pétrochimie, c'est tout à fait faisable. L'urée en fait partie, le carbonate et ainsi de suite. Je veux dire, ce sont des éléments qui sont utilisés dans la pétrochimie et tout, qui sont des éléments minéraux. Mais on peut aussi trouver d'autres types de minéraux qui sont, eux, naturels, et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait, de manière à pouvoir nourrir la spiruline. Donc après, il appartient à chacun de nourrir en fonction de ses connaissances et de ses compétences, et surtout en fonction de la disponibilité des intrants que l'on peut avoir. Mais oui, effectivement, pour pouvoir nourrir un bassin de spiruline, il faut rajouter des éléments dedans. Qu'on les appelle poudre de cailloux ou qu'on les appelle... Il faut rajouter ces éléments de culture à l'intérieur. Et ensuite, il appartient à chacun de trouver les éléments qui sont respectueux de l'environnement ou pas, à chacun ses idées.
Donc ça veut dire quand même qu'on a des spirulines de plus ou moins grande qualité selon la conscience professionnelle de l'exploitant, peut-être?
Je parlerai plus de connaissances que de conscience professionnelle, parce que je connais beaucoup d'agriculteurs qui sont tous empreints de conscience professionnelle. Beaucoup ont une conscience professionnelle. Il dépend simplement, je veux dire, c'est du niveau de connaissance de ce que l'on fait, de ce que l'on utilise, et en fait du rapport que l'on a à l'environnement. Pour notre part, sur le site de production que nous avons, nous essayons de voir la ferme, j'ai envie de dire plutôt le site de culture, comme un être vivant. Donc c'est-à-dire que par exemple nous faisons nous de la culture d'arbres fruitiers anciens pour la préservation des cultures, pour la biodiversité, mais aussi pour la saveur des fruits que nous cultivons. Il est bien évident que en ayant un jardin, je veux dire, tel que nous l'avons, nous n'allons pas aller polluer, je veux dire, le jardin avec des fruits que nous mangeons directement. Donc il est bien évident que si je réutilise mes milieux de culture, c'est que je sais pertinemment de quelle manière je peux les réutiliser et à quelle fin et dans quelle quantité.
Oui, mais je vous en remercie. Vous avez essayé de me convertir à la spiruline tout à l'heure parce que j'étais resté sur une mauvaise expérience d'une spiruline qui avait un goût relativement désagréable. Et ce n'était pas le cas, hein, sans vouloir vous jeter trop de fleurs.
Néanmoins, c'est gentil.
Votre spiruline,
je les prends quand même. Hein.
Votre spiruline m'a paru moins avec un arrière-goût de bouse de vache, etc. Enfin, je ne veux pas la qualifier. Et la vôtre, non. Donc ma question, que je la repose, on a quand même différentes spirulines selon les adjuvants qu'on lui administre.
Plutôt que d'adjuvants, je parlerai plutôt de nourrissement ou d'intrants. Je veux dire, ça dépend.
Mais bon, ceci dit, oui.
Pour répondre à la question, de manière franche, en fait, tout dépend, j'ai envie de dire, de beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, c'est non pas la souche que vous allez utiliser, mais le milieu de vie que vous allez utiliser, le milieu de culture. Ensuite, le second paramètre va être la récolte. Le troisième va être le séchage. Le quatrième va être le conditionnement. Il est bien évident que si vous cumulez certaines erreurs au niveau des différents postes, au final, vous n'avez pas forcément un produit qui va mettre en lumière toutes ces qualités. Je vais le dire différemment. Si vous prenez de la poudre, c'est-à-dire un produit qui a été soit atomisé, soit broyé pour faire des comprimés, vous avez explosé la structure cellulaire du produit. Vous avez donc, partant de là, libéré toutes les molécules odoriférantes comme la vitamine B ou quoi. Je mets quiconque au défi de manger ça comme ça. La vitamine B, quand vous la prenez sous forme de pilule, de gélule ou sous quelque forme qu'elle soit, généralement on essaye de l'enrober de quelque chose parce que c'est très fort, c'est pas bon. Je veux dire, mais c'est normal puisque c'est à l'air libre directement. Alors que si je prends la vitamine B directement dans le produit, c'est-à-dire à l'intérieur de sa cellule, je ne vais même pas le sentir, je vais sentir le produit. Et chez nous, la spiruline, lorsqu'elle est récoltée, nous conservons l'intégrité cellulaire du produit, du début à la fin. Lorsque l'on mange de la spiruline d'Orpierre, on consomme, on mange uniquement de la spiruline qui est sortie de son bassin, qui a été déshydratée. On ne mange pas ni du milieu de culture, ni un produit qui a été complètement broyé ou quoi. Vous mangez de la spiruline sous son brigoût. Après, il appartient à chacun, je veux dire, c'est de mesurer, de voir et de sentir. Et puis, tous les goûts sont dans la nature. Donc, certains peut-être préfèrent un goût plus fort, plus odoriférant. Chez nous, nous avons un goût qui est plutôt neutre, que je qualifierais moi de bon et qui me permet de pouvoir l'associer à tous les plats.
Vous la proposez sous quel conditionnement ?
Alors nous avons deux types de conditionnement. Nous avons la salière de 100 grammes dans laquelle vous avez donc de la spiruline. Quand je dis la salière, il n'y a pas de sel dedans. C'est simplement une boîte cartonnée cylindrique dans laquelle nous avons de la spiruline et qui permet de préserver notre spiruline d'Orpierre à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité. Et ensuite nous avons le sac sous vide qui est la recharge en 300 grammes ou en 500 grammes. Et qui vous permet ensuite de recharger la précédente, c'est-à-dire la salière, et de préserver le produit là de l'oxygène de l'air. Alors oui, mais la salière, me direz-vous, oui, mais la salière, elle a été préalablement donc conditionné sous vide, et nous ouvrons nos sacs sous vide, nos gros sacs sous vide, pour pouvoir conditionner la spiruline d'Orpierre et ensuite la distribuer sur les marchés, dans les magasins avec lesquels nous travaillons. Donc elle a une date limite d'utilisation optimale, c'est-à-dire une DLUO, c'est-à-dire le temps pendant lequel moi je garantis à peu près la teneur de ce qu'elle peut contenir, pendant 2 ans. À partir du moment où elle sort du site de production, à partir du moment où elle a été récoltée, je veux dire, c'est cette DLUO court pendant 2 ans. Et comme je suis un peu un psychomaniaque de la qualité, elle est mise sous vide très très rapidement, de manière à ne pas subir l'oxygène de l'air, ne pas subir la lumière, ne pas subir l'humidité. Et c'est la raison pour laquelle je la limite à 2 ans.
Après, je suppose que le conditionnement sous vide, il vaut mieux, une fois ouvert, la refermer précautionneusement afin qu'elle ne perde pas ses qualités.
Alors, nous avons deux types de conditionnement, je veux dire, c'est qui sont l'un en carton et puis l'autre en petit sac, je veux dire, c'est qui passe sous vide. Je veux dire, ces sacs sont tous recyclables, je veux dire, c'est justement parce que ben, nous avons une certaine éthique et un certain regard sur l'environnement et sur la consommation. Alors en fait, le conditionnement, lorsqu'il est ouvert, peut se conserver pendant 2 ans. Hein. Je veux dire, c'est qu'il soit ouvert ou fermé, il peut se conserver pendant 2 ans. Mais je le répète, je suis un psychomaniaque hein, de la qualité. Donc c'est la raison pour laquelle au départ, j'ai un conditionnement, je veux dire, c'est qui est sous vide, de manière à ce que lorsque l'on remplit la salière, quand vous êtes à la maison, vous remplissez vos 100 grammes, vous gardez, si vous avez pris un 300 grammes, vous gardez vos 200 grammes, vous roulez le sac, vous mettez une petite pince à linge dessus, vous le conservez au placard, ça va se conserver très très bien. On n'a pas mis dessus de petits zips ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est pas la peine d'augmenter les coûts de production, de fabrication et tout, surtout quand c'est le client qui le paie, de manière inutile, donc c'est pas nécessaire. Vous roulez votre sac, mettez une pince à linge, vous le mettez au placard et vous conservez vous consommez ce que vous avez dans la salière.
Alors François, Aprositouilleux, racontez-nous un peu, décrivez-nous un peu votre outil de production. Vous avez 2 bassins de 300 mètres, si je me dis. Et avec cela, combien de tonnage arrivez-vous à produire par an ?
Oh là ! Alors en fait, dans notre projet, nous sommes pour un projet de 1000 à 2000 mètres carrés de superficie. Pour l'instant, dans la première phase, nous sommes à 1000 mètres carrés de superficie pour un peu moins d'une tonne produite. Actuellement, nous avons construit 2 bassins sur les 3 dans la première phase du projet. Donc voilà, je veux dire, c'est parce que pour pouvoir construire un bassin, ça prend un certain temps. Bon, d'autres font plus vite, hein, mais je suis un peu vieille France et j'aime bien concevoir les choses dans la qualité et dans les choses qui durent. Donc quand je construis un bassin, je le fais pour longtemps et je le fais de manière qualitative, de manière à ce que je puisse optimiser les conditions de chaleur, les conditions de culture, les conditions de récolte et autres.
Et avec une tonne par an, combien de salariés peut-on faire vivre ?
Alors, pour l'instant, actuellement, nous sommes 2 sur le site de production. Hein, je veux dire, je suis l'agriculteur principal. Sur le projet, avec les 3 bassins, nous serons à un peu moins d'une tonne. Donc cela va sans dire, aujourd'hui nous ne sommes pas à une tonne, loin s'en faut, puisque le 2e bassin ne vient d'être monté que cette année. Le but du jeu étant de pouvoir vivre tranquillement, sans avoir des velléités énormes et voraces de vie consommatrice. Déjà, si on arrive à faire vivre la famille dessus, nous serons bien contents.
Et à terme, vous avez d'autres projets de
tout à fait, oui, tout à fait,
2000 mètres carrés, c'est ça ?
Tout à fait. Bah, disons qu'à terme, le but du jeu, je veux dire, c'est de pouvoir former des gens, je veux dire, de pouvoir. Mais bon, d'ici là, il faut le temps de mettre en place les choses et tout. Je le dis, je le répète, je suis assez vieille France, et pour faire les choses, il faut du temps. J'ai un petit adage, je veux dire, c'est qui est connu peut-être de certains, je pense par le plus grand nombre, c'est le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui.
Justement, est-ce que vous avez l'impression qu'avec le temps, votre expérience s'améliore et que vous améliorez votre process? Est-ce qu'il y a une amélioration de votre process?
Constamment, constamment. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, c'est-à-dire je suis un chercheur qui bien souvent trouve. Je vais le dire différemment, allez, j'ose la formule. En fait, il n'y a pas de choses abouties. Je suis constamment en train de remettre donc sur le métier l'ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours des méthodes qui peuvent être améliorées et tout, mais les méthodes qui sont valables, je les conserve, mais je les peaufine, je les optimise, de manière toujours à avoir une qualité qui soit présente. Pourquoi je me cantonne à une certaine quantité, à un certain nombre de bassins ? C'est que tout simplement, je veux rester selon un modèle et selon une qualité. À partir d'une certaine masse et une certaine production de spiruline, on sort du régime de la qualité et ça ne m'intéresse pas. J'ai une certaine responsabilité par rapport aux gens qui consomment de notre spiruline, qui la goûtent, qui la mangent régulièrement et tout, et je n'ai pas envie de me permettre de baisser la qualité face à des gens qui me font confiance.
Et y a-t-il une législation qui concerne votre secteur d'activité ?
Ah ben oui, bien évidemment qu'il y a une législation.
De quoi s'occupe-t-elle en fait ?
La législation, de quoi s'occupe-t-elle ? Eh bien, de légiférer.
Mais quelles sont les parties de votre métier qui sont alors, dans lesquelles il y a des contraintes ?
Alors, en fait, nous sommes dans le milieu des micro-organismes. Nous sommes en milieu aqueux. Donc, effectivement, on pourrait avoir des proliférations bactériennes, certaines qui pourraient être pathogènes et tout. On a guère de risque au niveau du bassin en lui-même, puisqu'il est fortement alcalin. Donc, on a guère de risque de contamination. Mais ces contaminations, si le milieu n'est pas suffisamment concentré, il peut y avoir tout un tas de choses qui pourraient faire qu'un bassin pourrait être contaminé. De là à ce qu'il y ait des germes pathogènes, la marge est très très grande. On n'est pas dans le fromage où là on a des bactéries qui sont surpuissantes et qui sont totalement pathogènes pour l'homme. Par contre, au niveau de tout ce qui est fabrication et autres, c'est-à-dire tout ce qui est laboratoire, on est loin de la fromagerie, mais par contre, il y a quand même certaines règles à respecter, quoi. Cela s'appelle les bonnes pratiques de fabrication. Chez nous, l'ensemble du site de production est basé sur de l'inox. C'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, je veux dire, avec cette matière-là, on va éviter grandement une prolifération bactérienne. On va avoir un laboratoire, on va avoir une salle d'eau, on va avoir tout un tas d'éléments qui vont nous permettre justement, non pas d'éviter, mais de limiter. Alors après, pour éviter, effectivement, je veux dire, les mêmes causes pour disant les mêmes effets, une certaine connaissance et un minimum de connaissances apprises justement auprès du législateur permet de pallier toutes ces difficultés. Et puis, bon, je le rappelle quand même, notre spiruline qui est mise sur le marché, elle n'est pas mise comme ça sur le marché. Il y a des analyses qui sont faites préalablement. On sait ce qu'il y a dedans, mais on sait aussi, je veux dire, ce qu'il n'y a pas. Je veux dire, et c'est pour ça que nous faisons appel, nous, à un laboratoire extérieur pour pouvoir analyser les produits que nous mettons sur le marché de manière à pouvoir être conforme aux législateurs. Même s'il y a des analyses que nous faisons en interne, justement, sachant très bien que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, nous travaillons, je veux dire, de la manière la plus optimisées possibles.
Et alors, d'une saison à l'autre, selon le soleil, l'hygrométrie, etc., vous avez une spiruline qui varie d'une année sur l'autre, alors ?
On a une variation, oui, quand vous êtes dans la prune, la tomate, la fraise ou n'importe quelle culture, et les micro-organismes n'y font pas exception. À partir du moment où vous avez une photopériode qui n'est pas la même, donc un ensoleillement qui n'est pas le même, où vous avez une météo qui n'est pas forcément encline à permettre la prolifération de la spiruline, ben forcément, vous avez une culture, je veux dire, qui est moindre d'une année sur l'autre ou plus importante, ça va dépendre de la météo.
Et même qualitativement, vous avez des bons crus par rapport à des mauvais crus.
Disons que sur la spiruline d'Orpierre, j'ose le mot de cuvée, puisque effectivement nous avons des meilleurs crus par rapport à d'autres, tout en étant dans une très bonne qualité, hein, puisque notre niveau d'analyse nous permet de pister tout cela, mais effectivement nous avons le cru 2012, 2013, 2014 et ainsi de suite.
Comment procédez-vous pour distribuer vos produits ? C'est par bouche à oreille ? Vous avez un site internet ? Vous avez des distributeurs, des magasins bio ?
Alors nous sommes présents sur Orpierre depuis 1997. Donc forcément, nous avons des gens qui nous connaissent par l'intermédiaire du bouche à oreille. Mais sinon, nous travaillons avec quelques magasins bio, je veux dire, avec qui nous avons une relation d'échange. Hein, je veux dire, c'est avec lesquels nous avons la même...
exigence.
La même exigence, exactement, la même manière de voir les choses, mais surtout, effectivement, la même exigence de certains protocoles. Et nous faisons aussi certains marchés et autres. Et notamment, nous faisons le marché aux fruits anciens. C'est la raison aussi pour laquelle nous cultivons les variétés anciennes sur notre terrain. Nous faisons le marché aux fruits anciens à Orpierre, qui a lieu au moment de la Toussaint, et où vous trouvez sur ce marché toutes les variétés anciennes qui se peuvent être trouvées localement.
Et vous n'avez pas de problème d'invendu ?
Non, cette année nous avons été en rupture de stock, donc c'est
plutôt bon signe.
Oui, c'est bon signe, mais en même temps, si vous voulez, c'est toujours embêtant de dire aux gens, mais écoutez, j'en ai plus à vous proposer. Alors certaines personnes, je veux dire, se sont approvisionnées ailleurs, et d'autres, bon, ben, sont revenues et nous ont dit, ben, écoutez, nous, on a votre goût dans la bouche et bon, c'est la vôtre qu'on aime bien. Je veux dire, il appartient à chacun après d'aller là où il faut. Je veux dire, voilà. Mais il est clair que et évident que jusqu'à présent, avec un seul bassin, notre production ne pouvait pas y suffire.
François Aprosy-Touilleux, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à cet organisme antédiluvien historique ?
Oh là, alors je vais vous faire deux réponses. La première, vous levez les yeux au ciel et puis vous demandez au Créateur, et je pense qu'il va vous donner certains éléments de réponse. La deuxième, plus pragmatique, à un moment donné, si vous voulez, moi je n'étais pas issu du monde agricole, hein. J'étais dans un tout autre monde puisque j'étais dans le milieu de la création. Ensuite, j'ai été dans le milieu de la restauration, et ensuite, nous avons fait le tour du monde en famille, et nous sommes allés à la rencontre du monde. Et à la rencontre du monde, on va dire que le dénominateur commun aurait pu et est, à mon avis, un peu la surpopulation et les problèmes de nutrition, avec des balances qui ne sont pas tellement équilibrées, et que j'ai eu envie d'intervenir, non pas d'intervenir, mais de participer justement du bien-être et du bon nourrissement des gens qui m'entourent. Donc on a redécouvert la spiruline en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, dans plein d'endroits, hein, puisque nous avions rencontré préalablement la spiruline en Nouvelle-Zélande, où là-bas, la spiruline, je veux dire, c'est quelque chose, je veux dire, c'est... vraiment d'assez commun, hein. Vous rentrez dans un bar, vous demandez un spirulina juice, on va plus vous poser la question avec which kind of fruit do you want, c'est-à-dire bon, quel type de fruit est-ce que vous désirez, si on n'a pas d'orange, si on n'a pas de kiwi ou si on n'a pas de banane, ça va plus poser un problème, mais la spiruline, ils en ont partout. Donc à la suite de ça, j'ai cherché une formation, j'en ai trouvé une dans le sud de la France du côté de Hyères, qui n'a pas été suffisante pour ce que je voulais faire, mais qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier. Donc après, maintenant, depuis, une fédération a été montée et j'ai fait partie du conseil d'administration à ses débuts. Aujourd'hui, cette fédération compte une centaine de producteurs et voilà, et les choses suivent leur cours. Donc disons que moi, personnellement, j'ai dû me remettre à niveau en biologie, en mécanique des fluides, en chimie pour pouvoir faire correctement mon travail parce qu'effectivement, on est dans le milieu des micro-organismes et qu'il ne s'agit pas de prendre quelques poudres quelconques et de jouer à l'alchimiste et de mettre ça dans un bassin en se disant bah tiens ça va pousser, c'est facile, c'est pas cher, ça peut rapporter gros. Non, ce serait une fausse caricature de la spiruline. La spiruline reste un micro-organisme, un milieu de culture reste un milieu de culture et un bassin, je dirais, est un endroit où la vie se développe et qu'il faut savoir porter un regard sur cette vie avec un objectif qui est derrière de nourrir les gens, donc ça donne une responsabilité. Personnellement, des gens me font confiance, donc on fait très attention à ce qui sort des bassins.
Alors, je suppose que si on souhaitait se mettre en contact avec vous, il serait possible de consulter un site internet et pourrait-on se faire envoyer par la poste un colis ?
Ah ben, si jamais, oui, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, c'est nous avons de la spiruline que nous produisons, c'est pas pour la garder dans les placards. Hein. C'est parce qu'il y a bien des gens qui aiment bien notre produit.
Quelles sont donc les coordonnées de votre site internet ?
Alors, notre site internet est spiruli.net, donc pas spiruline ou spiruli.net. Donc, on a tout un tas d'informations sur notre site internet. Sinon, le plus simple, c'est de nous appeler sur le site de production ou de rencontrer les différents magasins avec lesquels nous travaillons. Très souvent, localement, c'est-à-dire dans les Hautes-Alpes, avec les magasins avec qui donc nous partageons certains critères.
Eh bien François Prosy-Touilleux, s'il y avait encore des gens qui se posaient des questions sur la spiruline, je pense qu'avec cette interview, ils auraient eu beaucoup de réponses à leurs questions. Ceci dit, peut-être sur votre site, y a-t-il des moyens de trouver des informations que tout un chacun chercherait ?
Alors spiruli.net, c'est notre site sur la toile. Sur lequel il y a beaucoup d'informations. Si jamais on n'est pas satisfait de l'information qu'il y a, on peut toujours m'envoyer un petit mail et c'est avec grand plaisir que je répondrai. On peut aussi me contacter, hein, je veux dire toutes les coordonnées sont sur le site et c'est avec grand plaisir que je réponds puisque vous l'avez compris, c'est à la fois un métier mais surtout une passion.
Eh bien monsieur Prosy-Touilleux, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite une bonne continuation.
Avec un grand plaisir. Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.